Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a interpellée, bouleversée aussi. Pour ces deux auteurs dont nous allons parler, nous allons en faire connaissance, mais sans doute que peut-être la jeunesse littéraire les connaît. Pour ce livre, eh bien, nous allons un peu voyager, on va se balader entre les Landes françaises et le Venezuela, où nous allons rencontrer tout un panel de personnages tout aussi intéressants, émouvants, et une situation aussi attachante et également bouleversante. Pour ce livre, Le rêve d'un autre monde, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Plichota. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez coécrit ce livre avec Sandrine Wolf aux éditions IXO. C'est Le rêve d'un autre jour. C'est un livre émouvant, mais tout d'abord, on va un petit peu parler de vous. Qui sont Anne Plichota et Sandrine Wolf?
Ah, c'est une question, une question difficile de parler de soi. Mm-hmm. Je vais parler de Sandrine déjà.
Oui.
Sandrine, c'est ma sœur de cœur, je dirais.
Oui. C'est bien.
C'est un petit être très sautillant, très mm-hmm. fantasque, mm-hmm. Très dynamique. Voilà, elle a beaucoup travaillé avec les ados dans les quartiers difficiles.
Oui.
Ce qui peut-être explique son attachement oui. À cette tranche d'âge. Hein, mm-hmm. Voilà. Pour ma part, moi, c'est mes passions, l'écriture, la lecture.
Oui.
C'est devenu mon métier déjà en étant bibliothécaire.
Mm-hmm.
Et puis maintenant, écrivain depuis une dizaine d'années. Hein.
Mm-hmm.
Voilà, donc entourée de livres, de nature, de belles et bonnes choses autant que possible.
Bon, ben, tant mieux. C'est un beau programme de vie, dirais-je. Voilà.
Oui.
Donc, Le rêve d'un autre monde, la tour de l'espoir, je disais aux excellentes éditions IXO. D'abord, une question. Quelle a été la genèse de ce livre, l'idée? Alors, je disais, c'est une histoire entre le Venezuela et les Landes françaises. On va expliquer un petit peu pourquoi, mais on pourra pas dire trop de choses non plus parce qu'il faut laisser le soin.
Non, pas spoiler. Non.
Voilà. Voilà, on va pas spoiler le plaisir de la lecture pour les auditrices, auditeurs. Mais dites-moi, quel a été le fil conducteur de cette histoire pour vous deux?
Alors déjà, en toile de fond, je dirais, il y a la collapsologie, puisque Sandrine et moi, on est assez branchés, tout ce qui est effondrement, tout ce qui est fin d'un monde, hein, pas fin du monde, on n'est pas du tout dans cette
tout à fait,
dans
oui.
ce délire. C'est plutôt la fin de quelque chose, les cycles qui, mm-hmm. Qui se succèdent pour écraser peut-être ce qu'on a atteint de pire pour mm-hmm. Refaire peut-être quelque chose en mieux.
Mm-hmm.
Donc ça, c'était vraiment le point de départ.
Mm-hmm.
Et puis, il y a eu la Tour de David, hein, donc à Caracas,
oui.
Qui était apparue dans un épisode de Homeland.
Oui.
Et ça m'a fait un coup d'émotion. Hein.
Mm-hmm.
Et j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à chercher un peu. J'ai vu des reportages, notamment un reportage de la BBC. Hein.
Mm-hmm.
Et ça m'a complètement fascinée. Mais j'en pleurais d'émotion, en fait, de voir ce que ces gens ont fait dans ce bâtiment totalement insalubre,
mm-hmm.
Qui est devenu le plus grand squat du monde, hein, squat vertical.
Oui. Oui.
45 étages,
incroyable.
Pas d'eau, pas d'électricité, 3800 personnes qui vivent là et qui ont réussi à faire, à créer une petite société, une ville dans la ville, une ville où il y a de la sécurité, où il y a de la solidarité. Enfin, je trouvais ça tellement exemplaire.
Oui.
C'est presque devenu un personnage en
ah
tant
oui.
que tel.
Ah bah complètement, oui. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, c'est cette tour de l'espoir. Alors, ces quatre adolescents, les Gracias, donc justement vous parliez de cette société qui pour aider leur famille, leurs parents, eh bien vont tenter effectivement de construire cette société, de vivre au mieux malgré les circonstances. Et puis il va y avoir des inondations, de terribles inondations, et donc elle va venir la cible de malfaisants, hein, de gens qui vont vouloir s'approprier cette tour de l'espoir, cette micro-société qu'ils ont tenté de construire et de forger.
Mais disons que c'est devenu un objet de convoitise.
Complètement.
Puisque, ils ont réussi à être pratiquement autonomes. Hein.
Oui.
Je veux dire, telle qu'elle existait encore il y a quelques temps, il y a une épicerie, il y a une église, des écoles, un coiffeur, salle de sport, il y a tout ce qu'il faut.
Une ville dans la ville.
C'est ça. Avec la sécurité qu'il n'y a pas forcément dans les rues de Caracas, qui est quand même une des villes les plus dangereuses du monde.
Oui.
Mais dans la Tour de David, ils ont réussi en fait à établir une société tellement soudée. Les gens sont sélectionnés aussi, hein.
Oui.
Je veux dire, ça s'est pas fait non plus sans effort. Hein.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à garantir la sécurité aussi pour toutes ces personnes. Et ça, c'est vraiment, c'est admirable, vraiment admirable.
Oui. Alors, dans votre livre aussi, il y a aussi, je dirais, un personnage important, c'est les problèmes de l'environnement aussi, le cataclysme quelque part du temps, de la météo, parce que de l'autre côté, en France, donc on est dans les Landes, on est à la dune du Pilat, et là aussi pour deux adolescents, c'est une vie aussi qui va être bouleversée, et ce bouleversement climatique, il est très présent. C'est aussi un autre personnage dans votre livre.
Oui. Mais c'est quelque chose qui a toujours été récurrent en fait, hein, dans tous les livres qu'on a pu écrire, parce que c'est une préoccupation qui est assez permanente chez Sandrine et moi.
Oui.
C'est un souci en fait, vraiment une grosse préoccupation. Donc c'est vrai qu'on a tendance à retranscrire et à intégrer ce qui nous préoccupe et ce qui nous concerne au premier plan. Hein.
Oui.
Donc c'est vrai que ces jeunes-là sont confrontés passent d'une espèce d'état de confort, parce que notre vie est relativement confortable, surtout par rapport aux Vénézuéliens.
Complètement, oui.
Voilà, et de passer, quand on... En fait, ces gens-là, en France, on a beaucoup plus à perdre que les Gracias à Caracas.
Bien sûr.
Et comment en fait on affronte la perte de tous les repères, hein, de toutes nos possessions, de tout ce qui fait que, qui est une forme de socle aussi par rapport à la vie, par rapport au quotidien.
Mm-hmm.
Et ces deux jeunes se retrouvent complètement désarçonnés et ils doivent faire quand même preuve à la fois de courage et puis de grande débrouillardise aussi.
Oui. Alors on s'aperçoit justement parce que on compare, moi dans la lecture je me suis attachée aux Gracias et puis il y a aussi ces deux adolescents des Landes, de la dune du Pilat, et on trouve des similitudes, c'est-à-dire une force, parce qu'on dit oui la jeunesse c'est inconscient, ils se plaignent, mais en fait il y a une force, une détermination, un courage et un désir de vivre et de combattre et de se battre aussi.
Oui, je pense qu'on sous-estime beaucoup les jeunes aussi. Moi, je pense qu'avec cette petite Suédoise, son nom m'échappe.
Moi aussi, elle m'échappe.
Je pense que ça a révélé quand même pas mal de choses par rapport à cette tranche d'âge, en fait.
Oui.
Qu'on croit un peu
Greta, vous pouviez parler de Greta Thunberg.
Oui, voilà.
C'est ça.
Enfin, nous, on côtoie pas mal de jeunes. Bon, moi, par rapport à ma fille, Sandrine, par rapport aussi à son cercle.
Mm-hmm.
Et on s'aperçoit que c'est quelque chose dont ils vont pas forcément parler. Ils sont pas tous militants, hein, comme Greta Thunberg, c'est pas ça. Mais c'est quand même une préoccupation. C'est quelque chose qui les angoisse aussi beaucoup. Hein.
Mm-hmm.
Même s'ils ont un tout petit peu moins de recul que nous, notre génération en tout cas.
Mm-hmm.
Mais c'est quand même quelque chose qui est très présent et puis qui va falloir aussi prendre en considération, et il va bien falloir s'adapter parce que je pense que là on est focalisé sur une autre tragédie.
Oui, sur la pandémie, mais le problème environnemental va être...
Oui, c'est ça. Il ne s'est pas arrêté. Hein.
Non, loin de là.
Je pense que ça va nous... On va reprendre ça en pleine figure quand on va... On sera passé au-delà de ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Hein.
Oui.
Je pense. Hein. Et là, il va falloir s'adapter parce que c'est trop tard pour...
Pour reculer. Enfin, pour... Donc, il va falloir s'adapter.
On ne reviendra pas en arrière, ça c'est sûr. Non, on ne reviendra pas en arrière. Donc, il faut s'adapter, ou alors il faut tout de suite renoncer et se laisser décliner, je dirais.
Oui.
Et ces jeunes-là, eux, ils sont plus dans la confrontation, la directe, et un peu, ils subissent.
Oui.
Ils subissent. Mm-hmm. Même si Fanny, la jeune fille, est très, très, très impliquée dans toute cette...
Puis elle est débrouillarde, hein. Fanny, elle est débrouillarde. C'est une...
Bah, elle a été élevée comme ça.
Son copain est plus timide, plus...
Bah, il est peut-être un petit peu plus...
Plus introverti.
Un peu plus insouciant.
Oui, puis c'est un garçon.
Ouais, oui. C'est vrai.
monde.
En fait, c'est souvent les lecteurs qui nous mettent le doigt sur
non, mais
les
c'est,
choses
c'est...
absolument évidentes.
Mais c'est vrai, à un âge identique, la maturité est bien oui. différente. La réaction par rapport... Alors, je ne dis pas que les garçons ne sont pas capables d'un tas de choses. Il suffit de regarder
non.
dans la tour de l'espoir, bien évidemment.
Oui,
mais
oui, oui.
au niveau de la réflexion, de la maturité, de la prise en charge de certaines choses, la prise de conscience aussi,
oui.
Voilà, c'est, bon, c'est comme ça.
Oui, et puis c'est aussi un message à l'adresse des parents, c'est qu'il
oui.
il faut éveiller aussi nos enfants à ça
bien
et
sûr,
leur
hein.
apprendre des choses,
mmh,
des choses
fait.
Totalement élémentaires,
oui.
comme je veux dire tout le discours de Fanny autour des graines, autour
oui.
de l'eau,
oui.
c'est des choses qui sont nous, c'est pas du tout notre préoccupation aujourd'hui,
oui.
mais c'est mmh. pourtant essentiel.
Mais, oui. mais c'est une. Moi, j'ai trouvé que Fanny, il y avait un peu de Greta Thunberg en elle. Hein,
oui,
en,
oui,
en,
oui.
En elle,
c'est
hein.
vrai.
Complètement.
C'est vrai.
Hein.
Oui, oui.
Alors,
oui.
mais pourquoi la. Alors, c'est dans les Landes, la dune du Pilat. Bon, certainement que les auditrices, auditeurs, certains y sont allés en vacances. Pourquoi cette région de France
Écoutez, je sais pas. Pas exactement. Moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. Alors, c'est vrai
bon,
que j'allais
c'est
souvent
voilà.
dans ce coin que
voilà.
je trouve vraiment, vraiment très, très beau. Et,
oui, c'est vrai que c'est très
au
beau.
Au niveau de la nature.
Oui.
Puis en même temps, il y a quand même une espèce de fragilité dans,
oui.
dans ces forêts
des Landes,
de pins
oui.
où on voit bien que voilà, une allumette, une étincelle et,
oui.
Et c'est le drame.
Oui.
Non, je trouvais que c'était un décor. Puis j'aime bien l'idée de cette dune énorme comme ça qui fait un peu barrage.
C'est
peu,
vrai. Un peu tour, hein, comme la tour de l'espoir.
Oui, aussi,
une forme
aussi,
de tour de
côté
sable.
Côté vertical, voilà.
Côté vertical. Oui.
Ouais,
alors,
fait.
Justement, dans cette verticalité, c'est drôle hein, que vous parliez de verticalité parce que je me suis souvent fait la réflexion au cours du livre. Cette verticalité, c'est-à-dire monter vers le haut, toujours
oui.
monter pour se protéger, aller plus haut. Vous savez, cette verticalité aussi, on parle souvent de la verticalité du pouvoir.
Oui, oui.
Et j'ai fait un peu le parallèle.
Ah, il est bien votre parallèle. Oui, j'aime bien. Il y a inconsciemment, ouais, il y a certainement de ça dans la tour de David. En tout cas, c'est quelque chose qui est juste.
Oui.
Puisque les derniers arrivants, en fait, ils sont très hauts aussi
oui.
parce qu'il faut monter les étages
oui.
pour la moindre action, en fait.
Oui.
Donc c'est pénible, mais en même temps, plus on est haut, plus on est en sécurité.
Mm-hmm.
Je veux dire, quand Fanny et Chaude montent sur la dune et
voient
l'incendie des Landes,
et oui. le feu.
Aussi en sécurité. C'est
oui.
vrai que la hauteur peut permettre aussi cette distance et cette sécurité
oui.
qu'on n'aurait pas autrement. Oui.
C'est vrai. Alors j'espère que ce qui va sécuriser un petit peu les auditrices, auditeurs, et bien c'est cette petite pause musicale que nous allons faire et nous nous retrouvons tout de suite après. Retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Anne Plichota, avec Le rêve d'un autre monde, La tour de l'espoir, coécrit avec votre comment dirais-je
on va dire, co-auteur,
voilà,
qu'on a mis,
Sandrine, voilà, quoi, mis Sandrine Wolf aux éditions IXO. Alors, on parlait hein, donc de ce rapport entre le Venezuela, la Tour de l'Espoir, la Dune du Pilat. Il y a aussi deux manifestations, dirais-je, naturelles et qui se regroupent. Hein. On parlait de la verticalité du pouvoir. Mais d'un côté, il y a l'eau et de l'autre côté, il y a le feu.
Oui.
Et alors, l'eau est censée éteindre le feu, mais le feu aussi anime tout un tas de choses et l'eau aussi broie les choses de la même façon. Ce sont deux éléments naturels qui, quelque part, font surgir les problèmes au sujet de l'environnement aussi, de toute façon.
C'est ça, et puis c'est le côté très vital de l'eau et aussi du feu.
Oui.
Le feu peut-être plus symbolique, le feu intérieur. Voilà, qui fait qu'on en veut, quoi.
Mm-hmm.
On en veut. Et c'est tous des personnages qui sont très, très déterminés, qui sont assez flamboyants.
Oui.
Voilà, et l'eau qui est vraiment le problème majeur à Caracas depuis plusieurs années, hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Ça, c'est une réalité, hélas.
Hélas, oui.
Mais c'est vrai que ce sont deux éléments qui sont peut-être indispensables aussi... Si on enlève le côté catastrophique du feu, mm-hmm. du feu qui a ravagé la maison du pauvre Sean. Et,
oui. Comme tant de l'été dernier, beaucoup de choses qui ont été ravagées, également dans les Alpes-Maritimes, hein, ces terribles inondations aussi.
Puis l'Australie m'avait beaucoup frappée
aussi. L'Australie aussi.
En Californie.
Oui.
Voilà, les incendies géants, je crois que c'est... Ça, c'est vraiment quand même une terreur. Ça, c'est vraiment aussi le symbole à la fois de la vie quand ce feu intérieur, mais c'est aussi c'est la fin du monde, le feu.
Oui.
C'est la destruction.
Oui.
Et on peut pas lutter contre ça, en fait, très très difficilement. Ouais.
Alors que ce sont deux éléments qui, au début de la vie, puisque les Homo sapiens que nous sommes, feu tout a commencé, hein, l'Homo erectus, l'homme s'est levé puis a fait le feu. C'est comme ça que nous nous sommes humanisés. Et puis l'eau, il n'y a pas de vie sans eau, puisque nous venons de l'eau, hein, progressivement les bactéries se sont dirigées vers la terre, et puis progressivement nous avons évolué comme ça vers l'évolution selon Darwin. Donc c'est quelque chose qui a fait ce que nous sommes, mais qui peut-être aussi nous détruira.
C'est ça, en fait. Mais c'est comme tout, quand on ne sait pas où maîtriser ou simplement peut-être préserver, faire un peu attention et avoir du respect, en fait, pour des choses, pour la nature. C'est peut-être ça, ce manque de respect pour la nature qui fait que cette nature nous échappe et Et elle continue, je veux dire, c'est la nature, elle nous écrasera toujours.
Bien sûr.
Je veux dire, à Caracas, quand les inondations commencent, là, c'est vrai, c'est vraiment c'est ça qui sème le chaos, finalement, encore plus que les pénuries, quelque part.
Les pénuries, et puis la pandémie qui a fait rage aussi, un peuple aussi complètement appauvri, complètement dénué de tout.
C'est une véritable catastrophe.
Et pourtant, un pays magnifique avec une belle histoire. Hein. Je me suis documentée, j'ai regardé tout ça. Vous savez, cette tour aussi, cette tour de l'espoir avec les Gracias, j'ai fait un parallèle aussi avec certaines de nos banlieues. Vous savez, ces banlieues que l'on dit un peu oubliées, ces barres d'immeubles bétonnés où il n'y a ni foi ni loi, où chacun fait un petit peu sa foi et sa loi. Ça, j'ai pensé également à ça.
Ben c'est vrai qu'il y a le parallèle est assez juste. Ce sont des petits mondes qui se construisent parce que bon, moi je sais par rapport à Sandrine, tu as quand même beaucoup bossé dans les quartiers sensibles, dit sensibles, hein, je sais pas si le terme est vraiment approprié, je sais pas s'il y a un terme vraiment adéquat, mais c'est vrai qu'il y a une organisation particulière.
Oui.
Il y a une forme de solidarité aussi très très présente.
Oui.
C'est un monde fermé.
Complètement.
Beaucoup et de plus en plus peut-être.
Oui.
Mais quelque part à l'intérieur de ça, il peut y avoir aussi de très jolies choses et de une forme de
une solidarité,
une solidarité qu'on peut pas percevoir de l'extérieur en fait.
Mais il y a une chose aussi qui est frappante dans la Tour de l'Espoir, c'est que ce sont les enfants qui prennent en charge quasiment les adultes aussi.
Oui.
Et ça,
je pense que les adultes sont tellement épuisés aussi par, par des années de
lutte,
de souffrance.
De lutte.
C'est facile de renoncer. Enfin, c'est facile. Mm-hmm. C'est tentant.
C'est tentant,
C'est tentant et puis ces gamins, bon, ils sont quand même particulièrement déterminés, débrouillards. Oui. Je pense qu'ils ont, ils ont aussi une forme de gratitude par rapport à la matriarche.
C'est vrai, une gratitude.
Ils lui doivent tout.
Oui.
Ils lui doivent tout. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et puis, c'est important, la gratitude.
Oui.
C'est aussi quelque chose qu'on a toujours beaucoup développé dans, dans nos livres.
Oui.
La solidarité, la gratitude, c'est important.
Oui. Mais vous savez, on pourrait mettre dans leur bouche un mot que nous avait dit que nous sommes allés à Cuba avec des amis, mon mari et mes amis, mais je vous raconte ma vie. Le propriétaire d'une chambre d'hôte, parce qu'à Cuba, bien évidemment, c'est pas facile hein, pour les gens. Il nous avait dit c'est la lucha, c'est la lutte. Et je me suis dit, ce mot-là, on pourrait la mettre dans la bouche des Gracias, c'est la lucha.
C'est ça, en fait, c'est une lutte permanente. C'est, même quand la petite fille se met à chanter des chants révolutionnaires, dont elle n'a pas du tout conscience du sens.
Oui, du sens, oui.
Mais c'est ça, en fait. C'est, et quand ils se lèvent tous les matins, c'est qu'est-ce qu'on va manger et comment on va boire.
Oui.
C'est forcément quelque chose qui demande un effort et puis parfois certaines concessions aussi, et sans oublier l'humanité, parce que ça c'est quand même aussi le message important, c'est on peut vivre dans le désarroi, dans la souffrance, mais il faut pas oublier ce côté humain, et ça aussi c'est très tentant d'oublier son humanité.
C'est vrai, Et je me disais aussi, alors je tourne un peu autour des choses parce que je ne veux pas trop en dire non plus, mais ce serait bien aussi une rencontre entre les Gracias et Fanny et son compagnon.
Ah, mais patience. Je ne peux rien vous dire, mais...
Mais non.
Vous vous doutez bien.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est vrai que on a envie, justement, on a envie de une forme de chaîne de l'espoir, de l'espérance par rapport à ça. Non pas que nous adultes on veut un peu lâcher les choses, mais on se dit mais finalement être pris en charge aussi de temps en temps par cette jeunesse, par ceux qui feront le monde de demain, c'est pas forcément confortable, mais ça fait quand même du bien aussi à un moment donné.
Oui, je pense, oui, c'est. Moi, je pense que tout ça, c'est des messages un peu sous-jacents. C'est vrai que l'espoir, on le sent pas forcément dans ce volume-là.
On le sentira dans les autres.
Oui. Moi, là, je dis rien de plus.
Non, bien sûr.
Mais forcément, non, l'espoir, c'est aussi quelque chose pour nous qui, c'est indispensable. Et c'est quelque chose qu'on, comme la solidarité, comme la gratitude, c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est permanent permanent dans tous nos bouquins. On se roule en boule dans un coin et puis on attend, quoi.
Oui, on met le tricot sur les genoux, on prend un bon livre, on fait du macramé et puis on attend. Oui,
c'est pas vivre, ça.
C'est pas vivre. Non, déjà qu'en ce moment, on survit un petit peu, c'est quand même très compliqué aussi, un peu, beaucoup
un
aussi.
Peu,
ouais. Ça en fait partie des problèmes d'environnement que l'on disait. Finalement, quand vous entendez les problèmes de zoonose, ce que l'on attrape à cause des animaux ou par une certaine malhonnêteté humaine, c'est ce que l'on paye aussi, hein, de toute une certaine
c'est
façon.
C'est ça, et puis c'est vrai quand on voit, par exemple, rien que le permafrost, hein, dont Fanny fait vraiment le... Elle fait l'article, là.
Elle fait l'article,
à Sean.
Oui.
Et le permafrost, là, ce qui est en train de se passer, c'est terrible.
Oui.
C'est terrible. Et il y a des bactéries là qui sont qui arrivent dans l'air, des bactéries qui n'étaient pas du tout censées s'échapper de ce permafrost qui est en train de fondre à une vitesse inimaginable.
Par les glaces.
C'est une catastrophe qui est en train de se passer là aussi. C'est loin de chez nous, mais là il y a des troupeaux entiers de cerfs, de rennes qui sont morts comme ça, complètement fauchés par des bactéries qui ont des centaines d'années et qui sont libérées parce que tout ça est en train de fondre. C'est hallucinant.
Oui, c'est vrai.
Vraiment.
C'est vrai. Alors, il y a une chose aussi, je me suis dit au travers de ce livre, de ces personnages, cette tour de l'espoir, entre le feu et l'eau, je dirais pas que de votre part, c'est un cri d'alerte, un cri d'alarme, mais une demande de prise de conscience aussi.
C'est ça. Il faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut affronter maintenant. Voilà, on a plus vraiment de raison ni d'excuses de se dire oui, mais ça va s'arranger. Oui, mais. Non, il y a plus de oui, mais quoi. Voilà, on va pas récupérer ce qu'on a perdu, mais il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve des solutions. Est-ce qu'il y en a? J'en sais rien. Ça, par contre, j'en sais rien. Mais peut-être qu'on peut, je sais pas, ou limiter les dégâts, peut-être,
oui.
Peut-être pas. Mais en tout cas, s'adapter et essayer d'affronter tout ça et de s'en sortir au mieux, oui. Oui.
Comment se passe votre travail toutes les deux? Comment s'embringue votre organisation? Vous commencez à quelle heure? Est-ce que comment ça se passe? Voilà, racontez-nous un petit peu votre organisation pour l'écriture de ce livre, par exemple.
En fait, on construit l'histoire ensemble, vraiment l'architecture générale.
Oui.
Et puis ensuite, il faut passer au développement. Donc, moi, j'ai des horaires de bureau. Je suis très, très bureaucrate, en fait, dans ma tête. Voilà, je m'installe comme si j'étais au travail.
Ouais.
Bon, travailler chez soi, c'est pas toujours facile.
Non,
mais voilà, je m'apprête, en fait. Je me maquille, je me coiffe, je m'habille, je m'installe à mon bureau et puis je m'y mets. De façon très constante, régulière, je suis très méthodique.
C'est très bien.
Je commence toujours à écrire, parce que c'est mon truc, en fait. Mm-hmm. C'est vraiment ma passion, la forme des choses, en fait, la forme du récit. Et puis on parle beaucoup. On parle beaucoup et en fait, c'est un système de va-et-vient où chacune va essayer de développer ce qui lui tient le plus à cœur, parce qu'effectivement, on a aussi nos personnages favoris, on a nos chouchous, on a nos causes aussi, certaines causes qui nous parlent plus à l'une qu'à l'autre. Et le tout, c'est d'équilibrer. Donc, je commence et je termine en général pour lisser tout ça. Et puis, voilà, c'est une méthode qui est la nôtre.
Qui vous va bien.
C'est un grand chaudron, on mélange tout ça et puis on essaie d'en faire quelque chose de cohérent.
En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé votre livre. J'espère qu'il plaira, j'en suis certaine. C'est le rêve d'un autre monde, de toute façon, ça ne peut que plaire. Une tour de l'espoir également. Et puis avec un beau récit, une belle écriture, élégante et riche, avec deux auteurs que j'ai apprécié, Anne Plichota et Sandrine Wolf aux éditions XO. Ça a été un plaisir de vous recevoir, Anne.
C'est un plaisir de parler avec vous, vraiment.
C'est gentil, merci. J'espère qu'on vous retrouvera. D'après ce que j'ai compris, il y a une suite. Il y aura une suite.
Oui, le tome 2 est prévu pour le mois d'avril, normalement.
Eh bien, alors, on vous retrouvera avec plaisir au printemps ou à la rentrée. En tout cas, le plus tôt possible.
Avec grand plaisir.
Le rêve d'un autre monde, la tour de l'espoir, aux éditions XO, c'était avec Anne Plichota et également écrit avec Sandrine Wolf. Merci et à très bientôt.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
Au revoir.